Victor, c'est un 8 novembre, figure-toi qu'on a perdu toute trace d'Alfred Katz. Et c'est ce jour anniversaire que nous recouvrons notre liberté.
Mais dis-moi Alex, qui est Alfred Katz au juste ?
Allô Victor, c'est Alex. Oui, je dois te voir, c'est urgent. Tu feras attention à pas être suivi.
Accident ou assassinat, on sait toujours pas.
1938, une curieuse année pour les gens de mon âge. Une année terrible même, vous vous y intéressez ?
Il y a ce carnet que je lis.
Vous souhaiteriez peut-être être seul avec eux ?
Allons-y.
Pour le moment, j'habite à l'hôtel rue Gilles-le-Cœur, chambre numéro 13.
C'est pour une chambre ?
La 13.
Pour une nuit ?
Une semaine.
Et moi ?
Il me paraît tout à fait envisageable de marcher dans Paris avec vous.
Je m'appelle Félix et je suis comme toi un prolo. Tu aimes Mila, et moi aussi je l'aime. Je l'aime autant que toi. Si on allait prendre un verre.
À Mila.
À vous. À cette nuit pas tout à fait ordinaire que nous allons passer, mes amours. S'il est d'accord, je propose qu'on boive ce matin à l'annonce de mon tout prochain mariage avec Alfred Katz.
De quoi étiez-vous au courant ?
On savait tout. Ce qu'on ne savait pas, on le soupçonnait. Le carnet de votre ami est plus précieux que vous ne le pensez.
Je veux une photo du déjeuner sur l'herbe.
Tout le monde nous regarde, Mila !
Oh, petit Katz, tu veux me garder pour toi, hein ?
Ne bougez plus.
Nous cheminons entourés de fantômes au front troué de Jean-François Villard. Adaptation radiophonique, Maya Bokeh. Troisième et dernier épisode.
Où en sommes-nous avec petit Katz, Mila, et les autres ?
Début juillet 1938, les jeunes mariés s'installent quai Jemmap. Mila transforme le minuscule meublé de Katz en nid douillet. Elle est certaine d'être enceinte.
Nous pouvons abandonner la chambre d'hôtel ici et aller chez toi, au plus proche de leur nid.
C'est une idée.
Oui. Allô ? Pouvez-vous nous monter deux petits déjeuners, s'il vous plaît ? Chambre 13. Le café noir 2. Merci. Il faut reprendre des forces avant la suite des événements. Je sens que tout va s'accélérer. On continue ?
Le 8 juillet.
Oui ?
Le secrétaire de cellule, Camille, avec lequel Katz prépare la conférence de septembre, se fait voler sa vieille serviette dans le métropolitain. Les documents n'apprendront pas grand-chose à ceux qui les liront. Le vrai dégât, c'est cette suspicion qui s'installe. Staline accuse le parti communiste polonais d'être un nid d'espion, un foyer trotskiste. De nouvelles purges s'annoncent.
Ce qui ne sera pas sans conséquence pour le POI et les trotskistes français.
Les 10 et 12 juillet, Camille ne vient pas au rendez-vous. De l'inexplicable, du jamais vu. Camille a ses défauts, mais il ne manque jamais un rendez-vous.
Alors quelque chose ne va pas.
Oui. Et de ce quelque chose, Katz ne sait pas trop quoi faire. Et il ne sait pas tout, loin de là. De ce qui va devenir l'affaire Rudolf Clement.
Camille aurait donc été Rudolf Clement ?
Tout comme Camille, Clement disparaît le 12 juillet 1938. Quelques jours plus tard, le samedi 16 juillet, la copie d'une lettre prétendument adressée par Rudolf Clement à Léon Trotsky est envoyée à différents leaders trotskistes. Dans cette lettre, Clement annonce sa rupture avec M. Trotsky, qu'il accuse de trahison, de dévoiement de la 4e internationale, de travail de sape au bénéfice de l'Allemagne nazie.
Rien de moins.
Quelques jours plus tard, à Mexico, Trotsky reçoit son propre exemplaire de la même lettre. Quantité de détails attestent que cette lettre est soit un faux, soit un texte rédigé sous la contrainte physique. Cette dernière hypothèse étant la plus plausible.
L'enlèvement de Clement par le NKVD ne fait aucun doute. Il ne pouvait avoir de sens que dans le cadre des procès à Moscou et à Barcelone.
Début août, Katz néglige systématiquement de dater ses notes. On est toujours sans nouvelles de Rudolf Clement. Personne n'espère plus le revoir vivant. Le 26 août, la presse révèle que des sacs contenant des morceaux de corps humain ont été repêchés dans la Seine. Un homme sans tête et sans jambes, le reste du corps ficelé dans une toile goudronnée et lesté par une haltère. L'état de décomposition indique une immersion vieille de plusieurs semaines.
Rudolf Clement.
Tous les camarades du POI y ont pensé.
Et Katz, comment vit-il tous ces drames ?
Il écrit « Nous sommes tous des gibiers. Qu'est-ce qui et à quel moment nous fait gibier plus intéressant qu'un autre.
Je comprends. C'est émouvant et terrible. Quelques poignées de militants liquidés. Très anti-staliniens et très courageux. En France, il y a des dossiers pour chacun d'eux, pour la mémoire. Alors que chez nous, en Tchécoslovaquie, il y avait très peu de militants ouvertement opposés à Staline ou à Gottwald après sa prise de pouvoir. Mais il y a eu des dizaines de milliers de liquidés, de déportés. Aucun dossier sur la plupart de ces gens. Vos camarades ont gardé leur singularité, leur identité. Chez nous, à l'exception de quelques grands boucs émissaires mis sur le devant de la scène, il n'y a que d'interminables listes de victimes qui resteront finalement anonymes. Et après ?
Dès le 1er septembre, les événements s'accélèrent.
Raconte.
Blaise m'a fixé rendez-vous au local. Il y a de nouvelles consignes. Le parti est désormais victime de 1000 tracasseries policières. Provocations, intimidations, perquisitions, camarades arrêtés. Une interdiction peut être décrétée du jour au lendemain. J'ai droit à la révision obligée des consignes de sécurité, des sottises élémentaires sur l'art de déjouer les filatures. De manière moins habituelle, Blaise me demande de lui fournir la liste de mes fréquentations, y compris et surtout hors du parti. Il n'en est pas question. Il l'a pris tout de suite de haut.
Pas de discussion possible, c'est la sécurité du parti qui est en jeu.
Inutile d'insister, j'en fais une question de principe.
Toujours ton individualisme petit bourgeois. La discipline révolutionnaire n'a aucun sens pour toi. On t'a fait confiance trop longtemps, malgré tes incartades.
Quelles incartades, au juste?
Tes amis artistes peu recommandables. Ta femme.
J'ai écrasé mon poing sur sa figure. Le sang a coulé.
J'en rendrai compte aux camarades. Ils les apprécieront.
Il y a eu un nouveau rappel de réserviste.
Oui, j'ai entendu. Près d'un million. Mais tu es en situation régulière, tu n'as rien à craindre.
Je suis apatride, Mila.
Non mais ça se voit pas.
Je sens bien les regards sur moi dans le quartier. Il ne part pas, il n'est pas mobilisé, c'est un métèque, un planqué, un salaud, un juif.
Tu te fais des idées.
Non, non, je ne me fais pas d'idées. Hier, le voisin me l'a demandé ostensiblement. Vous ne partez pas? Mais vous avez pourtant l'âge. Non mais tu me dis de ne pas m'inquiéter, Mila, que je suis en situation régulière, mais en période de guerre, il n'y a rien de régulier.
Nous ne sommes pas en guerre, Alfred.
Nous ne sommes pas encore en guerre, mais la guerre est inévitable. Demain ou après-demain. Et la situation sera difficile, voire intenable, pour des gens comme moi. Je pense à la Légion.
Écoute, Alfred, c'est aujourd'hui qu'on va savoir. La guerre, la paix, le destin de la petite vie que j'ai dans le ventre. En attendant, tu vas aller à tes affaires et moi aux miennes. Et on en reparle ce soir. Si nous devons prendre une décision... Je t'aime. N'en doute jamais. C'est toi que j'ai choisi. La guerre, tu l'amènes depuis longtemps et ça, j'ai eu du mal à le comprendre. Je ne voulais que rire et danser. Viens dans mes bras.
Que feras-tu, Mila, après ma mort?
Je m'occuperai du bébé. Je me remarierai. Avec Félix, s'il veut bien encore de moi. Avec n'importe qui.
Samedi 1er octobre, les journaux titrent « L'accord de Munich est accepté par la Tchécoslovaquie. Les troupes allemandes entrent aujourd'hui dans le premier secteur cédé au Reich. La paix est sauvée. »
Écœurant.
Encore à la une, le Popu n'oublie pas de signaler qu'on passe à l'heure d'hiver. N'oubliez pas de retarder votre pendule d'une heure.
Comment ça, à l'heure d'hiver ?
Et ça existe depuis le 19 mars 1917. Dans la même journée, Katz a rendez-vous avec Blaise. Il est nerveux, un peu plus que d'habitude. Les flics multiplient, selon lui, les descentes dans les appartements de militants de tous bords.
As-tu gardé des papiers du temps où tu travaillais avec Clement ? Des archives, des documents ?
Quelques bricoles, des notes codées, des doubles de circulaires peut-être. Rien de compromettant.
Même négligeable, ce matériel n'a rien à faire en ta possession. Tu aurais dû le rendre dès la disparition de Clement, ou le détruire.
Je brûlerai ces papiers en rentrant.
Pas question. Des camarades américains sont à Paris et sur le point de partir.
Ils sont mandatés pour rapporter à Trotsky les dossiers suivis par Clement.
Le nettoyage a déjà été fait.
La preuve que non. Nous avions soupçonné ton laxisme, pour ne pas dire plus.
Si je comprends bien, c'est un ordre.
Exactement. Tu as rendez-vous demain matin avec un camarade américain sur le quai, à la fourche du canal Saint-Martin et de l'Ourcq, près de l'écluse, à 6 heures précises. Tu lui remettras tous les documents en ta possession. Tous.
Lui, le camarade, comment pourrais-je l'identifier à coup sûr ?
Lui ne te manquera pas. N'aie aucune inquiétude.
Je t'ai préparé du café et j'ai mis tes documents dans la sacoche. Sais-tu si tu rentreras pour le souper ?
Oui.
Oui, bien sûr. Pourquoi tu ne rentrerais pas ? Allez, file. Il est 5 heures. Ne sois pas en retard.
5 heures. Je pouvais aller au rendez-vous à pied. Il n'y avait rien dans ma sacoche. Des circulaires banales, des polémiques de merde, des textes que flics et stalinistes devaient connaître depuis longtemps. Plein de choses n'allaient pas dans cette histoire. J'en étais tellement convaincu qu'arrivé au pont de Crimée, je faillis renoncer. 5h15, je pris le canal à rebours et me dirigeai vers un territoire disloqué, un chaos de terrains vagues et de baraquements minables, dans lequel il devait être banal de mourir sans faire d'histoire. 5h30. Il faisait toujours nuit, mais je distinguais vers la porte de la Villette la très massive silhouette des usines à gaz. Jamais je n'ai pu aller à un rendez-vous sans me donner un bon quart d'heure de marge. 5h45, je relève le col de ma canadienne. Il y a un petit coin tranquille, dans un repli de terrain vague, où je peux attendre et voir venir. Je regarde ma montre, 6h. Le contact n'est pas sérieux et Blaise n'est qu'un abruti. 6h, et il n'y a personne. Je prends acte du retard et attends, les documents bien calés dans les reins. 6h45, l'homme arrive enfin, longe le canal et s'attarde à l'écluse. Il est de taille moyenne, un peu voûté. Lui aussi porte une canadienne, c'est assez commun. Il observe les alentours. Je suis certain qu'il ne me voit pas. Il évalue la profondeur du bassin de l'écluse. Je ne bouge pas. Je le sens mal. J'ai l'impression de le connaître. Plus exactement, de l'avoir déjà vu. 6h55. Tout va très vite. Trois gaillards surgissent de derrière un amas de décombres et attaquent l'homme qui se débat.
Ладно, добей его, чтобы наверняка. Уходим, уходим.
Sous mes yeux, un homme était mort, assassiné. Il y avait tué un guet-apens. Et c'est à ma personne qu'on en voulait. L'attentat avait eu lieu au matin d'une nuit où l'on passait à l'heure d'hiver, ce que les tueurs et leurs victimes avaient négligé. Restait une conclusion désagréable. Les tueurs savaient désormais qu'ils avaient raté leur coup, et pour les avoir vus à l'œuvre, je savais qu'ils n'étaient pas des hommes de renoncement. En clair, j'avais à me planquer.
Bien des choses se perdent dans les services. Big Brother a de considérables ratés. C'est pour cela qu'Alex et vous restez une déplaisante incertitude.
Nous étions convenus de parler d'Alfred Katz, Laurent, pas de son fils.
Oui, Alfred, venons-y. Bon, il n'existe pratiquement pas dans les fichiers, ceux auxquels j'ai eu accès. Dans quelques procès-verbaux, j'ai pu découvrir la trace d'un petit agitateur portant ce nom, du menu fretin. Un apatride en situation parfaitement régulière. Il s'est fait quelquefois interpeller dans des manifs, des distributions de papiers de propagande, etc. À un an d'une déclaration de guerre, quand on est trotskiste et juif, c'est bien la moindre des choses.
Rien de plus ?
Comment savoir ? Le profil de notre homme est assez standard. À la fin des années 30, vous auriez probablement eu le même traitement. Certains procès-verbaux, des notes de synthèse font état de pièces annexes sur son compte, justifiant un classement particulier.
Quel classement ?
Il semble, alors je dis bien il semble, que ces pièces aient été entreposées aux archives du Fort de l'Est. Ne me demandez pas leur contenu. Ces archives ont brûlé peu de temps après la libération.
Donc rien de sérieux sur Alfred Katz?
Rien. Dans l'état actuel de mes recherches. Ne vous faites pas d'illusions, Victor. Les activités subversives de ce garçon n'étaient pas ce qui devait intéresser le plus mes collègues de l'époque. Il y avait de plus gros poissons.
Vous m'avez tout dit?
Merde, Blainville. Soyons ennemis, mais pas tout le temps. Dans les rapports que j'ai pu consulter, on se demande sans fébrilité si le petit Katz aux idées émancipatrices n'était pas un brin proxo.
Oh, une plaisanterie.
Comment Mila gagnait-elle l'essentiel de leur vie? Sans parler d'Alfred lui-même. Des enquêtes de voisinage lui prêtent des mœurs peu conventionnelles. Pour l'époque, s'entend.
Et moi?
Pareil. Vous n'êtes plus qu'un dossier à ramifications multiples que je ne sais pas classer.
Solveig vient à peine d'entrer. Elle n'a même pas enlevé son blouson. Elle prend le carnet, le feuillette. Katz avait laissé plusieurs pages blanches. Puis venaient ces simples mots que j'avais déjà lus.
Von Ratz, assassiné ce matin, 27 novembre 1938.
Ensuite, plus rien.
En quoi cette exécution concerne-t-elle particulièrement Katz? Il y a eu quantité d'autres événements politiques importants en octobre. Il aurait été complice?
Ça cadrait mal avec ce que je savais de lui. Mais qu'est-ce que je savais au fond? Après tant et tant de pages, Alfred Katz n'est qu'un fantôme évanescent. Une ombre fuyante, un rêve dont quelques séquences émergent, mais dont la cohérence se dérobe à l'effort d'identification.
Alex a cru que son père était mort assassiné. Pourquoi?
Je l'ignore.
Tu vas chercher à savoir?
Pas tout de suite.
Ces derniers mots de Katz me privent de repères. L'assassinat de Von Ratz.
Tiens, Victor, je dois filer. C'est le brombard de combat au journal. Déjeunons ensemble demain. Passe me prendre au boulot, d'accord?
Solveig?
Oui?
Je vais me tirer d'ici. Faut que tu m'aides à trouver un autre appartement.
C'est vraiment ce que tu veux?
Les bureaux du soir sont quasi déserts. Toute la rédaction est rassemblée dans la salle centrale, le nez levé vers un alignement de postes de télé. Pas d'émotion, rien que de l'excitation professionnelle.
Voilà enfin une dictature dont la chute ressemble à quelque chose. À Prague, nous avons été un peu minables avec notre faux mort du 17 novembre. Santé.
Givio, au fantôme de l'histoire.
Viens, Victor, partons. Plaquons tout ce cirque.
Pour aller où?
À Prague.
Prague?
Je pars demain.
Quand est-ce que t'as pris ta décision?
Difficile à dire. Le jour de la grève générale, je crois. Ou en voyant chanter Marta Kubishova sur ce balcon, place Venceslas. Ou quand j'ai vu Havel lever son verre avec Dubček le soir de la débâcle du Parti communiste. Ou bien lorsque j'ai compris que je ne suivrais ni toi ni Katz.
Pourquoi pas plus tôt?
Bon, la fausse raison, c'est que j'étais interdite de visa il y a encore une dizaine de jours. La vraie, c'est que même sans te suivre, je ne pouvais pas te laisser seule avec Katz. Tu veux toujours déménager?
Je l'ai dit.
Vinohrady, rue Lutsemburska, Prague 3, si tu veux. Il y a un studio qui pourrait te convenir.
Il me faut bien admettre le bistrot de Doris devenu un McDo. Un morceau de mur de Berlin dans mon appartement vide. La ville sans Solveig. Et plusieurs paris se superposant dont aucun n'est tout à fait réel. Je ne peux capter qu'un bref journal de nuit, au hasard de la bande FM. La répression bat son plein en Roumanie. À Prague, le congrès extraordinaire du Parti communiste se poursuit dans un franc esprit de débandade absolue. Il est inutile de chercher à dormir. Le brutal silence de Katz est bien plus intolérable que l'absence de Solveig. Elle me pousse vers une mise en ordre. Lui ne laisse qu'incohérence. Pire, Katz m'ouvre des pistes sans me donner les moyens de les explorer, de les suivre jusqu'au bout. À force de ne pas tenir ses promesses, il m'a baladé, me laissant en plan. Ce n'est pas tant de la colère que de la déception. Katz reste une énigme molle, sans vraie consistance.
Soit.
Plus d'une fois, j'ai cru saisir un indice. un point d'amarrage. Tout s'est toujours dérobé.
Puisque Katz me laisse un plan, faut partir de zéro. Et faire comme si. Voilà. Fini de rêvasser. De tracer des beaux itinéraires sur les plans d'arrondissement, de pointer les lieux, les dates, d'y aller, de revenir. Fini. Parce que inutile. C'est vain, puisque Katz me laisse en plan. Voilà. Oh là là, petit carnet. Tu n'es plus que lambeau. Tu me mèneras nulle part. Mais voilà, que je te caresse, que je te palpe, que je t'examine une dernière fois. Cette petite cornure de la couverture, déjà entamée par les années. Qu'est-ce que tu caches ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Ah, tu te décolles facilement, c'est bien. Oh, mais tu dévoiles un petit secret, on dirait. Des petits mots, délicatement tracés à l'encre verte. Blaise, un traître.
Blaise. Un traître.
Félix. Un délateur, un faussaire.
Félix, un délateur, un faussaire.
Je décide de rendre visite à mon camarade Bourseil.
Allumez-moi une cigarette et servez-nous à boire. Vous trouverez des verres à la cuisine. Mais je vais aller mieux. Hein.
La une de l'Humanité en date du 5 mars 1953 est affichée et encadrée sur la porte de la cuisine. Staline est mort. La vaisselle n'a pas été faite depuis plusieurs jours. Je trouve des verres. La Gauloise lui fait du bien. Il s'ébroue, susote sa vodka tiède.
Que devient notre ami Katz? Je suis certain que c'est à cause de lui que vous venez me voir.
Ce n'est plus tout à fait vrai. C'est même à contre-cœur que je rends compte de l'épisode du dépeçage du carnet.
Cette histoire vous lasse? Blaise, un traître. Félix, un mouchard. Un faussaire. Voilà qui donne un nouvel éclairage.
Un obscurcissement total, plutôt. S'il s'agissait de dénoncer deux salauds, Katz a eu recours à un moyen bien détourné. Pourquoi n'a-t-il pas accusé ces deux hommes plus nettement dans son carnet? Pourquoi ne les a-t-il pas dénoncés à ses camarades?
Peut-être l'a-t-il fait.
Une telle affaire aurait laissé des traces, des souvenirs. Et là, rien. Tout se passe au contraire, comme si Katz avait voulu cacher ses révélations le plus longtemps possible.
Mais vous paraissent-elles fondées? Après tout, voilà des semaines que vous vivez dans ce récit. Des nuits entières, vous vous êtes glissé dans la peau de Katz. Vous avez fait plus qu'imaginer. Vous avez vécu tout ce qu'il n'a fait qu'évoquer. Tout ce qu'il n'a pas raconté. N'avez-vous jamais eu de soupçons?
Pour Blaise, j'ai toujours tenté de faire la part des choses entre l'antipathie que j'éprouvais pour lui et l'appréciation de certains de ses comportements, éventuellement douteux. Ou bien je le méprisais trop pour le suspecter d'être un flic.
Et Félix?
L'accusation est incompréhensible. Délateur. Félix m'a semblé de bout en bout un type régulier. Ma confiance en lui a été totale justement parce qu'il avançait à découvert. Et voir en lui un faussaire dépasse l'entendement. D'abord à cause de Mila. Félix n'aurait jamais fait quelque chose qui aurait pu lui déplaire vraiment.
Vous êtes sûr?
Certain. Je peux imaginer des lâchetés, des faillites, des retournements. Après, pendant l'occupation. Le carnet s'arrête en 1938. À cette date, on ne peut rien reprocher à Félix. Ou bien, et c'est finalement la seule hypothèse plausible. Il y a eu la brusque révélation d'une immense, d'une incontestable duplicité. La découverte que le vieil ami, l'amant de quelques nuits, n'était qu'un salaud. Mais pourquoi enfouir cette terrible dénonciation dans les épaisseurs secrètes du carnet ? L'ourset ? J'allume une cigarette. À la lueur du briquet, je vois que l'ourset s'est assoupi, qu'il dort. Son antre sent bon l'encaustique et la poussière. Je m'offre un dernier verre. Je griffonne à l'aveuglette quelques mots sur une feuille de carnet. Nous ne nous reverrons plus pendant un certain temps, cher l'ourset. Il faut bien que je m'émancipe. Je me risque à vous embrasser. Le 28 décembre 1989, je suis à Prague. Solveig m'a laissé les clés d'un studio. Il s'agit d'un grand atelier d'artistes, avec verrière et mezzanine. Un endroit accueillant, inattendu.
Dobrý večer.
Hello.
Marie.
Ah, Maria?
Sem vaše sousedka.
Je ne connais évidemment pas la jeune femme en robe de chambre molletonnée qui se tient sur le palier. Je ne comprends pas non plus tout de suite ce qu'elle cherche à me dire, sinon qu'elle s'appelle Maria et habite l'étage en dessous du mien.
Rozumíte? Já jsem ho převzala za vás.
Elle ne parle pas anglais, je ne parle pas tchèque. Nos relations de voisinage n'ont aucune raison d'être compliquées. Maria me tend un paquet, me montre l'étiquette. Elle est libellée en lettres bâton à mon nom et à ma nouvelle adresse. Le colis est relativement volumineux, posté de Paris. Laurent en est l'expéditeur. Un mot est scotché sur une boîte.
L'ourset décédé. Dernière volonté, vous transmettre ce petit héritage.
Laurent suggère que je lui fasse signe à l'occasion. La boîte contient un magnétophone de poche, un casque, une cassette et une enveloppe. La mort de l'ourset ne peut raisonnablement pas me surprendre. Elle m'accable à en pleurer. Dehors, la neige s'intensifie et fige toute chose, comme si le temps n'avait pas d'importance. L'histoire tombe au dehors comme la neige, avait dit Breton. J'en suis heureux. Je descends, emporte avec moi le magnétophone et l'enveloppe. Je me dirige vers le quartier de la vieille ville, repérant sans m'attarder les immeubles de l'agence de presse Tcheteka, du journal Svobodné Slovo, dont le balcon a accueilli les orateurs de la Révolution, et en face, les Assicurazioni Generali, où travaille Kafka. Les rues se font étroites, sinueuses, les maisons plus basses. Le choc de la place de la vieille ville au sortir de la rue Melantlikova. Place monumentale, disloquée et parfaite. Théâtre absolu de Prague. C'est immense. Le moment est venu. Je sors le magnétophone de ma poche, ajuste le casque sur mes oreilles. Il me semble que c'est ici, très précisément, que je dois commencer à prendre connaissance du message posthume de l'ourset.
Cher Victor, ce qui me préoccupe encore est peut-être définitivement devenu de l'histoire ancienne. Une affaire close. Pire, peut-être que là où vous êtes, là où vous m'écoutez, je vous dérange. Il s'agit d'Alfred Katz, vous vous en doutez. Sa fin vous intrigue à juste titre. Alex pensait qu'il était mort assassiné. Il avait raison. Mais par qui ? Tout laisse penser que Katz, avec tous les petits secrets dont il avait plus ou moins eu connaissance, était devenu quelqu'un de gênant, voire de dangereux. Au début du mois de novembre 1938, Katz est contraint à une clandestinité intenable. Pour le parti, son seul contact est Blaise. Il est à sa merci. Mais imaginons que Blaise soit hors de cause. C'est vers l'ami Félix qu'il faut se tourner. Ami et plus qu'ami. Camarade détesté. Rappelez-vous, Blaise, un traître. Félix, un délateur et un faussaire. Pourquoi ?
J'imagine le vieux Lourcet, rabougri dans son fauteuil, dans la pénombre.
Félix était un staliniste. Tout est possible avec lui. Rien ne passait avant la sécurité du parti. Dès le début, Félix avait informé ses responsables politiques qu'il était en contact avec le trotskiste Katz. Il ne cacha pas non plus leur lien d'amitié. On ne fit rien pour l'inciter à couper les ponts. Bien au contraire. Ce Katz paraissait inoffensif. Il pouvait fournir des renseignements malgré lui. Tout était bon à prendre contre les hitléro-trotskistes. Félix n'avait qu'à rendre compte de chacune de leurs rencontres, et il le fit scrupuleusement. Attitude détestable, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on se dit aujourd'hui. À l'époque, Félix n'avait pas choisi Katz. Il s'en était accommodé, tant bien que mal. Mila oblige. Bon cœur contre mauvaise fortune. Plaçant la loyauté à l'égard du parti avant tout, du moins dans les premiers temps. Félix trahit Katz sans la moindre vergogne. Les états d'âme vinrent plus tard. Bien plus tard.
Lourcet, Félix, un même homme. Je ne suis pas tellement surpris. Je marche à Mérante, dans Prague. Et le récit bascule.
Pendant plusieurs semaines, mes rapports ne concernèrent qu'un petit militant de base. Mon secrétaire de cellule les enregistrait en quelques notes de routine et transmettait à la hiérarchie du parti. Les choses évoluèrent un peu lorsque je fis état des préparatifs concernant la conférence de fondation de la 4e internationale. Malgré nos querelles, Katz n'a jamais intégré l'idée que nous étions d'irréductibles ennemis politiques. C'était son côté sympathique ou irresponsable. Sans Mila, jamais Katz et moi n'aurions été ne serait-ce que copains. Puis vint l'affaire Rudolphe Clement. Elle rendit tout notre petit monde très nerveux. En septembre, je fus confié à un nouveau référent. Référent, ainsi appelait-on les camarades à qui l'on devait répondre sans jamais poser de questions. Celui-là était d'un autre pays. Il se faisait appeler Dan. L'image même du parfait Cominternien. J'ai informé Dan du rendez-vous que devait avoir Katz au canal de la Villette avec un membre de la 4e internationale. Je pense qu'un guet-apens fut improvisé en dehors de moi. Il y eut mort d'homme sur la base d'un quiproquo. Une mauvaise mise à l'heure des pendules.
Tandis que Félix noissa tout dans la vodka, je marche dans l'avenue du 17 novembre qui est parallèle à la Voltava. Ce 17 novembre-là est une des premières dates de la résistance tchèque.
Katz savait trop de choses et devait se planquer. Mais où ? Il lui en coûtait de faire appel à moi, l'ami staliniste. J'étais pourtant son seul recours. Son cas était très critique, car outre Clement, il avait aussi fréquenté ce Greenspan, polonais comme lui, qui avait assassiné von Rath. Assassinat qui déclencha la fureur d'Hitler envers les Juifs d'Allemagne et qui a abouti à la terrible nuit de cristal. Katz avait prévenu ses camarades, c'est-à-dire Blaise, qui lui avait ordonné de se couper de tout le monde. En vrai pestiféré qu'il était devenu. Il avait obéi car, pour une fois, l'analyse de Blaise était la sienne. Il avait aussi très peur pour Mila. Il savait beaucoup de choses. Il ne voulait pas me compromettre.
ne me réclamez pas l'hospitalité. Juste une planque, n'importe où, dans n'importe quelle condition, pour un jour ou deux, pas plus. Une fois encore, je fus à deux doigts de l'envoyer paître. À cause de Mila, à cause de Trotsky. C'est un temps que l'on ne peut plus imaginer.
La cassette s'interrompt. Il persiste à neiger de la liberté sur Prague et elle n'entend pas fondre si vite. Je m'assieds ou me laisse tomber sur un banc. Mes larmes se figent, gelées. J'ai tout mon temps. Je sens tout Prague, ses ondes. Je suis enfin là où je veux. Face B.
Un de mes vieux copains des plateaux de Joinville était parti en tournage. Il m'avait laissé ses clés, à tout hasard. Celles d'un petit appartement rue Oberkampf. Je ne sais pas. Je n'ai jamais su comment les choses se jouèrent en cette nuit du 7 au 8 novembre 1938. Je remis les clés à Katz. Il s'enfuit, serrant son précieux cartable contre sa poitrine. A-t-il été suivi ? Je l'ignore. Je suis remonté chez moi. Dan, mon référent, m'attendait sur le seuil de l'immeuble. Je le fis entrer. Sa nervosité était glaciale. Il disposait des dernières informations en provenance directe de l'ambassade. Les nazis étaient résolus à exploiter au maximum l'assassinat de von Rath. Et Katz devenait un problème. Entre Clement et Greenspan, ce petit Katz avait incontestablement le sens des relations à haut risque. Le hasard seul ne pouvait pas faire si bien les choses, n'est-ce pas ? C'était donc un activiste plus retors qu'on pouvait le croire. Je fis ce que j'avais coutume de faire, mon rapport. Cette fois, avec une forte inquiétude. J'avais la certitude de passer un test. Ma peau était en jeu. J'ai donné l'adresse de la planque de Katz.
La neige s'incruste de plus belle, aveuglante. J'avance à petits pas sur le pavé glissant, de plus en plus difficilement. Il me faut me résoudre à trouver un abri momentané dans l'encoignure d'un porche. L'ourset, Félix, je ne sais qui, poursuit sa confession.
Au matin du 10 novembre, inquiet de ne pas avoir de nouvelles de Katz, je me rendis rue Oberkampf. La porte était ouverte, serrure fracturée. Je ne me suis pas attardé. Ni moi, ni Mila n'avons jamais revu Katz. Nous comprenions mal la situation. La nuit du 9 novembre est entrée dans l'histoire sous le nom de « Nuit de cristal ». Dans l'Allemagne hitlérienne, les milices nazies, secondées par une immense quantité de braves gens, ont déferlé dans les rues, saccagé, brûlé les magasins juifs, détruit les synagogues, traqué le sol Youpin. Le bilan est connu. 91 assassinats, plus de 35 000 déportations. Où êtes-vous, cher Victor ? Les chronologies se mêlent, les calendriers se brouillent, les identités ne sont plus très sûres. Plus tard, que mentionneront les maniaques du calendrier comme vous ? La nuit du grand pogrom ou celle de la chute du mur de Berlin ? Après le pacte germano-soviétique, Blaise chercha à prendre contact avec ce qui restait du parti. Pas sot. Il ne cacha rien de son passé trotskiste. Il prétendait avoir compris que les théories du vieux Trotsky ne mèneraient qu'à l'impasse. A très appliqué litanie des renégats. Elle enchanta mes camarades, qui après concertation et vote démocratique à main levée, intégrèrent Blaise à nos activités. De mon côté, j'avais sans aucun élément de preuve la conviction que Blaise n'était rien d'autre qu'un flic.
Oh.
laisse commis assez peu d'erreurs. Bah, il n'eut pas de chance. C'était un assez vieux militant pour que mes suspicions à son encontre soient prises en considération. On se moqua un peu de moi, mais on accepta de lui tendre un piège banal, assez grossier. Un soir, les flics firent une descente dans une arrière-salle de bistrot où devait se tenir une réunion de cadres. Les flics firent chou blanc et pour cause. Blaise avait pris connaissance de cette réunion lors d'une rencontre de liaison restreinte. Lui seul ignorait qu'elle était absolument bidon, inventée de toutes pièces pour vérifier s'il était un mouchard ou pas. Il l'était. Il eut beau avouer très vite, les choses se firent salement, assez confusément aussi. Il fut cogné longtemps, durement. Cela se termina au matin. J'ignore si nous avions honte ou si c'était le froid en sortant de cette cave où nous l'avions entraîné. Nous tremblions. Hagard et solitaire, chacun pour soi. Nous découvrions ce qui serait notre hantise définitive. Ce que des hommes peuvent faire à un homme dans une cave. Nous avions laissé Blaise nu et sanglant sur une terre humide. Authentique salaud. Et pauvre chose humaine. Tous au moins, une fois, et souvent bien plus, dans les 3 ans qui suivirent, nous y sommes passés. J'imagine qu'à ce moment-là, nous avons tous pensé à Blaise, à ce que nous lui avions fait. Je n'ai pas pu en discuter avec mes camarades. On ne parle pas facilement de ces choses-là. Surtout lorsqu'on est le seul survivant. Voilà. Vous savez tout maintenant, ou presque. Je n'ai jamais revu Mila. J'ai su bien plus tard qu'elle avait été arrêtée en septembre 43 sur dénonciation, puis déportée. Elle est morte à Auschwitz en mars ou avril 44. Puis un soir, à la télévision, on était en 1962, je crois. On diffusait l'interview d'un jeune écrivain qui sortait un livre autobiographique. Le visage de ce jeune homme me fascina. Il était le portrait craché de son père, Katz. Un Katz avec un autre regard, une expression plus charmeuse, quelque chose de Mila. Travaillant à la télévision, il me fut très facile de récupérer ses coordonnées. Vous devinez la suite. Hein? Alex aurait pu être mon fils. Je lui devais une vérité. Il y avait droit. Je me mis à rédiger le carnet. Le fameux carnet. Il ne faut pas croire que je l'ai écrit au jour le jour. J'ai mis du temps, des années, tentant de voir la vie comme cet idiot de Katz. Je me suis fait archiviste, chroniqueur. Je me suis découvert vieux. J'avais beau écrire à l'encre verte, les mots, tous les mots étaient poussiéreux. À commencer par celui-là qui nous avait liés et opposés, la révolution. Au fil des pages, je suis devenu Katz. Et plus que Katz, moi qui étais Félix. Au début, je croyais le sauver, le rendre présentable en le réinventant. C'est moi qui faisais mon salut. Quand l'encre fut bien sèche et vieillie, que j'eus la certitude que la moindre rature avait un aspect d'authenticité, j'envoyais le carnet à Alex. J'ignore ce que fut sa réaction. Le choc dut être considérable. Avec vous, j'ai eu l'impression que le Katz du carnet n'était pas une invention, qu'on pouvait enquêter sur sa vie, ses secrets. Peu à peu, vous vous êtes mis à parler en son nom. Vous m'avez fait douter. Évoquions-nous le même personnage, ces mêmes cheminements. Et j'ai perdu pied. Et la maladie, la lassitude, oui. Et plus que tout, ce monde qui s'est écroulé cet automne. Toutes ces biographies, que valent-elles après la chute symbolique du 9 novembre ? Espoir, combat, mauvais coup, trahison, amour. Je me suis découvert survivant inutile, avec pour seul héritage à transmettre une mémoire de dupe, de faussaire. Je vais me taire, boire ce fond d'alcool. J'ai beaucoup parlé. Tout n'est pas dit. Je n'ai pas prévu de mot de la fin.
Impossible d'interrompre l'insupportable défilement de cette bande.
Mila n'a plus que vous.
La neige continue de tomber et recouvre tout. Je sors l'enveloppe que l'ourset a soigneusement placée dans le colis. À l'intérieur, la photo du mariage. Mila et ses deux amants déjeunant sur l'herbe. Mila, nue, les formes généreuses, regarde dans la direction de l'objectif, sans le fixer, sans le défier. Ses deux compagnons arborent des sourires figés de circonstance. Son visage à elle est tragique. Elle ne triomphe pas. Elle est victime. Cette photo se veut le souvenir d'un moment d'insouciance. Le corps nu et blanc de Mila, la marque du sceau de la tragédie. J'ai envie de retourner dans la vieille ville. À part les omniprésents portraits de Václav Havel, quasi rien n'est visible des traces de la Révolution. Pas de banderoles, pas de graffiti, pas de signe extérieur d'enthousiasme. Tout juste, et c'est immense. Une impression de dignité retrouvée sur les visages. Prague est toujours aussi belle. Elle n'est plus ni accablée, ni triste. À quelques pas devant moi, je suis à peine surpris de reconnaître la silhouette de Laurent. Il lève les yeux sur une haute et sombre statue.
C'est Rabbi Lev et sa créature, le golem. Heureux de vous rencontrer ici, Victor.
Le légendaire rabbin est dressé, visage grave, très creusé. Le golem s'agrippe à lui, lové dans les plis de sa robe, implorant et séducteur.
Libre à vous de me croire ou pas, je ne suis pas en mission. Je cherche plus les histoires. Ça vous dirait une bière ?
Laurent ne tient pas à parler de la mort de l'ourset. Ou de Félix, au choix. Le suicide ne fait pas de doute. Les confidences testamentaires au magnétophone n'ont pour seul intérêt à ses yeux que de compléter les archives oubliées, jamais classées. Et puis ?
Chacun dans son genre, nous avons vous et moi tellement fait fausse route. Je vous ai surestimé. Vous avez surestimé Katz. Trinquons. Je savais que vous étiez à Prague. Mais croyez-moi ou non, je n'ai rien fait pour vous rencontrer. Rien non plus pour vous éviter. Vous demandez ce que je fais ici. Congé de fin d'année, de fin de décennie, de fin d'époque. Petit retour sentimental aussi. Je vous raconte ?
Laurent raconte, avec la mine navrée de qui égrène les choses triviales de sa vie privée. Il a été 3 ans au poste à Prague, comme attaché d'un vague service culturel, et comme agent.
Si nous nous connaissions mieux... Si, par hypothèse absurde, nous étions amis, je vous dirais que je n'ai pas fait un très bon boulot ici. Je suis tombé amoureux d'une étudiante, Yana. Nous nous sommes même mariés. J'ai vite compris que seul mon passeport l'intéressait. Yana était assez franche, je ne peux pas prétendre avoir été dupé. Je n'avais aucune raison de lui refuser le service qu'elle me demandait. Malgré quelques complications symboliques avec les autorités, les choses se sont bien passées. Formellement, après nous être installés à Paris, nous avons bien mis 2 ans à divorcer.
Pourquoi ce récit ?
Une idée généreuse, en guise d'adieu. Pour que vous sachiez que vous n'êtes pas le seul crétin. Et vous, Victor ? Que venez-vous chercher ici ? Vous quitteriez Paris ? Pour cette Solvègue ou pour cette ville ? Ou bien avez-vous enfin trouvé une nouvelle révolution exemplaire pour vous enthousiasmer ? C'est cela ? Quel masochisme ! Écoutez autour de vous, discutez. Plus personne ne veut entendre parler du socialisme, à visage humain ou pas. On se fiche comme d'une sinistre guigne des subtiles différences entre Staline et Trotsky. Lénine lui-même est indéfendable. Demain, Havel sera élu président. L'un de ses premiers soucis sera de faire débaptiser le quai Engels, où il habite, et de lui redonner son ancien nom.
Il a largement raison. Laurent se lève, me serre la main, cherche un mot pour prendre congé avec une pirouette, ne le trouve pas, puis s'en va, les épaules plus voûtées que nature. Le soir même, je décide de me rendre au Lucerna. Maria, ma voisine du dessous, m'a informé d'une fête organisée là-bas en l'honneur du nouveau président. Le Lucerna avait été l'une des plus prestigieuses créations de la Prague des années 20. On y trouvait à l'époque des salles de spectacle, des restaurants chics, des locaux commerciaux, des boutiques de luxe, des curiosités populaires. Le tout desservi par un réseau de galeries couvertes. À l'étage, l'un des balcons a été l'un des hauts lieux de la Révolution de novembre. L'entrée n'est pas signalée. Une porte étroite, coincée entre une échoppe de coiffeurs et un marchand de journaux. Après un minuscule vestibule, j'entre dans un escalier étroit et raide, aux murs tapissés de velours rouge râpé. Des accents de musique violente montent des profondeurs. Soudain, il fait très chaud. Je décide de ne pas prêter attention à l'oppression claustrophobe qui ne demande qu'à me tenailler. Où suis-je ? Une boîte ? Une taverne ? C'est une sorte de club. Plusieurs salles de plus ou moins grandes dimensions correspondant entre elles. C'est un réseau assez complexe. Un vrai labyrinthe. J'arrive dans une galerie où les vitrines sont faiblement éclairées par un néon classiquement blafard. Par centaines, des petites annonces sont rangées sur des glissières, chacune écrite sur un bristol rectangulaire. Blanc, jaune, rose, bleu. Elles me sont incompréhensibles. Je devine des propositions immobilières, des négoces d'objets, des trocs. Je passe mon chemin. Au-delà, il fait noir. Je poursuis mon investigation dans l'enfilade des caves. Elle me semble abriter une tranquille euphorie historique. C'est une grande nuit. Les gens vont et viennent, trinquent et dansent. La chaleur m'accable. L'idée de mourir asphyxié me paraît presque dans l'ordre des choses. Finalement, je m'échoue à une table, encombrée de bouteilles et de verres à moitié vides. Pas loin, je sens Katz taciturne. J'en suis désolé. À gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Des issues, des perspectives, des portes dérobées, des boutiques à double fond, des escaliers, des coulisses. Cette ville en minuscule est un piège qui permet de déjouer tous les autres. L'idée s'impose peu à peu que je suis dans la dernière rue de l'exposition qui avait tant séduit Katz en janvier 1938. Lucerna. Donc, lanterne. La rue de la vieille lanterne, près de la tour Saint-Jacques, avait disparu. Vu sa forme, longtemps, les Parisiens ont appelé la tour la lanterne. La rue n'était qu'un leurre. Elle était faite pour mener, tout droit ou par tous les détours, à Prague. Ici. Une lanterne est faite pour être magique. Je suis épuisé, ivre mort et agité par les fantômes familiers. Je m'assoupis.
Katz et Mila sont avec nous ce soir. Félix aussi, Alex et tous les autres. C'est leur dernière nuit. Tu les as conduits jusqu'où il fallait. Ils font maintenant partie de la cohorte discrète et tenace des ombres de Prague, simplement ici, au Lucerna. La lanterne. Mais attention, la lanterne magique, le théâtre de la Révolution, est dans une autre galerie, pas loin d'ici. En fait, tu ne te promènes que dans une idée de la ville. Fais attention, mais pas trop. Le jeu n'est pas prêt de finir. Il y en a qui vont et viennent, toi tu reviens. Maintenant, ce sera Prague.
Plus tard, au petit matin, je me réveille, seul et engourdi. Je me lève, remets de l'ordre dans ma tenue. Dans une vitrine, un miroir me renvoie très exactement l'image usée que j'attends et qui me convient. À quelques pas dans la galerie aux petites annonces, je trouve celle qui m'est destinée, toute nouvelle. Solveig me donne rendez-vous le 21 août, sans plus de précision. Heureusement.
C'était « Nous cheminons entourés de fantômes au front troué » de Jean-François Villard. Adaptation radiophonique, Maya Bocquet. Troisième et dernier épisode. Avec Antoine Mathieu, Bruno Pavio, Lenka Luptakova, Christophe Brault, François Château, Florent Houlier, Grégoire Lagrange, Céline Milia, Ismaël Ruggiero, Yana Bitnerova, Victor Ponomarev, Nikolai Yarouchenko, Raresh Yenasoaï. Et les voix de Sébastien Faglin, Didier Mérigou, Pascaline Baumard, Stéphane Cestac, Eva Sandors, Peter Joupnik, Noémie Prechanova, Philippe Votava. Bruitage, Céline Bernard et Patrick Martinache. Musique originale, Dominique Massa. Alto, Mathieu Beauchat. Violon, Thibaut Maudry. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Bastien Varigo. Assistant à la réalisation, Félix Levacher. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Nous cheminons entourés de fantômes au front troué de Jean-François Villard est publié aux éditions du Seuil.